Les colloques du Collège de France.
Bon, bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci de votre présence pour assister à ce beau colloque que nous devons à notre éminent collègue François Desroches. Alors, François Desroches, je tiens d'abord à saluer votre œuvre considérable en faveur de l'islamologie, à vous féliciter de cette initiative, de l'organisation de ce colloque sur Paul Casanova, qui nous rappelle que les savoirs de l'esprit ont une histoire, ont une généalogie jalonnée par l'engagement intellectuel de nos grands anciens. Et je vous remercie de rappeler ces grandes figures du savoir. Et puis je tiens à vous remercier pour l'aide, le soutien précieux que vous accordez à l'Institut français d'islamologie à travers votre action au sein du Conseil scientifique, dont je salue la présence du président qui est parmi nous, le professeur Ali Amir Mouedzi. Alors, vous allez nous présenter Paul Casanova. Nous en parlions, c'est une figure importante mais discrète, peu connu en dehors du cercle érudit de l'islamologie. Je note les dates. Vous allez non seulement parler de son œuvre, mais aussi de sa transmission, de sa présence aujourd'hui. Et nous vous écoutons avec la plus grande attention.
Oui, disons que les circonstances étaient un peu particulières. Il se trouve que je termine mon enseignement au Collège de France cette année et 1926 c'était l'année de la mort de Casanova, pour lequel j'ai beaucoup d'admiration. Et je me suis dit que, en regardant justement la façon dont il avait été reçu, que finalement c'était une figure un peu négligée et qu'il y avait donc une espèce de nécessité de rappeler ce qu'il avait fait. Alors bien sûr, pas d'évaluer son œuvre, c'est pas tellement l'intérêt, mais de montrer plutôt la diversité. D'ailleurs, on n'aura pas tous les aspects de la carrière et de la contribution scientifique de Casanova, mais au moins les points les plus importants. Ça fait en fait presque, j'aurais d'ailleurs peut-être pu organiser plus tôt ce colloque pour avoir moins chaud, ça aurait été au mois de mars, puisqu'il est mort au Caire en 1926, et c'est disons, sa mort a eu lieu dans son endroit de prédilection, puisque c'est au Caire qu'il a fait la plus grande partie de sa carrière. Son œuvre, je l'ai dit, est importante, très diverse, mais son existence, comparativement, est mal connue. Certes, en tant que professeur au Collège de France, cette institution conserve un certain nombre de documents qui se rapportent à la période durant laquelle il y a enseigné. D'un autre côté, l'Institut français d'archéologie orientale possède un dossier Casanova, mais comme pour les archives du Collège de France, la consultation des documents est assez décevante. Dans un cas comme dans l'autre, la personnalité de ce savant passe un peu au deuxième plan et ses vestiges épars, puisqu'on a en quelque sorte seulement les actes correspondant à des étapes administratives, laissent un sentiment de frustration à celui qui cherche, comme j'ai tenté de le faire, qui cherche à écrire une biographie. Il est vrai que Casanova est resté célibataire, ce qui a sans doute contribué à la disparition d'informations qui nous seraient bien utiles. Il n'a pas eu, et on le verra dans un instant, il n'a pas eu véritablement de disciple au sens traditionnel, dans la mesure où sa carrière, vous le verrez, s'est déroulée un peu en dehors de ce qui était la règle à l'époque. Ce que j'ai pu retrouver à l'Institut de sa correspondance vient parfois donner un éclairage complémentaire sur des points qui ne relèvent ni de sa vie académique, ni de l'administration. Qui était-il ? Il était né le 29 juin 1861 en Algérie, à Orléansville, devenu El Asnam après l'indépendance de l'Algérie, puis Chlef après le tremblement de terre de 1980. Son père, Augustin Jean-Baptiste Casanova, était propriétaire et colon et membre du conseil municipal d'Orléansville. D'où venait-il ? Il semblerait qu'il ait eu des attaches en Gironde. Deux lettres de Casanova, l'une datée de 1897, l'autre de 1909, sont écrites d'Arcachon et Paul Casanova avait demandé à être enterré à Arcachon, signe peut-être qu'il avait des attaches là-bas, mais je n'ai pas trouvé d'autres traces matérielles pour le moment. Sur l'enfance et les études de Casanova, nous ne disposons que de quelques repères. Nous n'en avons aucun à propos de ses études primaires, mais nous savons qu'il apprit l'arabe. Alors, est-ce que c'était comme s'il s'agissait de sa langue maternelle ou est-ce qu'il connaissait un petit peu? Dans une lettre, mais c'est peut-être par modestie, il dit qu'il avait quelques notions de maghrébin. Il étudia au lycée d'Alger, Orléansville n'est pas très loin d'Alger, mais enfin bon, il était pensionnaire, jusqu'à la troisième, et partit poursuivre et finir ses études secondaires en France. Il fut pensionnaire au collège Sainte-Barbe de 1874 à 1879 et prépara au lycée Louis-le-Grand en tant qu'externe d'abord son baccalauréat, puis le concours d'entrée à l'ENS de la rue d'Ulm, où il est reçu sixième en 1879. Ce parcours relativement lisse, et peut-être lisse parce que nous n'avons pas grand-chose pour nous renseigner, présente un premier accroc au moment où il est élève à la rue d'Ulm. Au bout de sa première année, il est renvoyé pour avoir échoué à sa licence. Autre temps, autre mœurs, je crois que maintenant, ça n'arriverait plus du tout. Fustel de Coulanges, qui dirigeait alors l'établissement, n'abandonne pourtant pas son sort Casanova, mais réussit à lui trouver un emploi de maître auxiliaire à Louis-le-Grand, ce qui permit à Casanova de préparer à nouveau sa licence qu'il obtient en 1881. Commence alors un intermède fait d'une succession d'emplois de professeurs d'histoire à Saint-Brieuc, à Châteauroux et à Amiens. En fait, il ne semble pas qu'il ait eu la fibre du professeur de l'enseignement secondaire. Il est ainsi déplacé de Saint-Brieuc pour avoir refusé d'obéir au proviseur. De nos jours aussi, ça ne serait pas vraiment un motif de scandale. Et les rapports le qualifient d'artiste, lui reprochant de ne pas contrôler ses élèves et de ne pas tenir compte des consignes qui lui sont données. Il obtient un répit en prenant un congé sans solde en 1884, vraisemblablement après avoir échoué à obtenir un poste en Algérie au prétexte qu'il serait, comme on disait à l'époque, israélite. Ce désir de retourner en Algérie était peut-être lié à la situation familiale, son père étant mort à une date que je n'ai pas pu préciser, en laissant deux enfants mineurs. D'ailleurs, d'après sa correspondance, on voit qu'il se rend à plusieurs reprises en Algérie, évoquant en octobre 1889 des intérêts très urgents et très sérieux, et en avril 1997, faisant à son retour état de, et je le cite, sa terreur à propos de l'avenir de sa sœur qui vit encore à l'époque à Orléansville, où la région est victime de continuelles sécheresses, et donc j'imagine que la propriété familiale devait ne plus avoir beaucoup de valeur. Renonçant à préparer une agrégation d'histoire, Casanova se tourne à ce moment vers les études d'arabe, peut-être avec l'espoir de trouver un poste de professeur d'arabe en Algérie. Il prépare le diplôme des langues eaux qu'il obtient en 1888 et suit des cours en lien avec ses études. Il sera ainsi un élève d'Hartwig d'Erinbourg qui enseigne alors à l'EPHE. La piste algérienne s'arrête à ce moment avec son recrutement comme membre de la mission archéologique française du Caire. Il va passer trois années dans cette ville entre 1889 et 1892. Il trouve enfin son élément. Il gagne tout d'abord l'estime du directeur de la mission, Gaston Maspero, avec lequel il entretiendra une correspondance suivie entre 1889 et 1909. Il apprend l'arabe égyptien et, dans une lettre à Maspero, il s'applique, dit-il, et je le cite, « à la pratique de la langue parlée, qui lui est d'autant plus difficile qu'il connaît déjà un peu de maghrébin et d'arabe littéraire ». Il explore de nouveaux domaines, dont celui des objets mobiliers et des monnaies, faisant à ce moment la connaissance du docteur Fouquet, dont il publiera une partie de la collection de dénéraux et de jetons. Il se voit clairement, et c'est sa correspondance qui me permet de le dire, comme un archéologue, un mot qui revient à plusieurs reprises. Il collecte des éléments qu'il utilisera également pour rédiger son histoire et description de la citadelle du Caire, qui s'inscrit dans le cadre d'un projet sur la topographie du Caire lancé par Maspero et qui sera, son livre, sera publié dans la série des mémoires de la mission archéologique en 1894. Au terme de son séjour au Caire, il revient en France et accepte d'abord une charge d'enseignement au lycée de Tulle pour échapper au service militaire. En janvier 1893, recommandé sans doute par ses compétences en numismatique, il est nommé sous-bibliothécaire au cabinet des médailles de la Bibliothèque nationale. Il est alors sous les ordres d'Ernest Bablon, qui dirige le cabinet et apprécie beaucoup le travail de ce collaborateur. Avec Bablon, sa correspondance couvre une très longue période, entre 1896 et 1920, mais avec peu de lettres, et ce sont des lettres pourtant très intéressantes, puisque c'est là où on a quelques détails de son quotidien et de son ressenti. La bonne opinion de Bablon vaudra à Casanova d'être nommé bibliothécaire au cabinet des médailles en 1900, et plus par la suite, comme nous le verrons. Mais cela ne lui permet pas de passer au département des manuscrits orientaux, comme il l'aurait sans doute souhaité, puisque quand il est au Caire, il s'intéresse beaucoup aux manuscrits et achète même un manuscrit pour la Bibliothèque nationale. Il poursuit son travail en numismatique, contribuant au catalogue des monnaies musulmanes d'Henri Lavoie, publié en 1896, et qui concerne l'Égypte et la Syrie. Les catalogues des deux collections égyptiennes auxquelles j'ai vaguement fait allusion, celle de la veuve du Khédive Ismaïl et du docteur Fouquet, sans doute commencés au Caire, sont publiés, le deuxième en 1893 et le premier en 1896. L'orientation égyptienne de sa carrière trouve une sorte de couronnement en 1898 lorsqu'il est nommé directeur adjoint de l'IFAO pour l'arabe, une nomination qui est confirmée en 1900 pour une durée de 9 ans. Sa tâche est définie de la manière suivante par le ministère en décembre 1997. Et je cite, « Au moment où la maison de l'Institut français d'archéologie orientale du Caire étant achevée, l'imprimerie annexée à cet établissement va entrer en fonctionnement, il m'a paru indispensable de placer à côté du directeur, M. Bourian, et sur sa demande même, un spécialiste ayant fait ses preuves de mérite et capable de l'aider pour la partie arabe. Vous aurez, sous la direction de M. Bourian, à contrôler la préparation et l'impression des travaux arabes publiés par l'Institut. » Fin de la citation. Il lui est également demandé de faire une sorte de programme qu'il soumet très rapidement début janvier 1998. Dans son introduction, il ébauche un projet d'édition nouvelle de Makrizi, je cite, « accompagné de notes et variantes et complété par un vaste index des noms de personnages historiques et de localités et monuments décrits dans cette volumineuse encyclopédie et enfin illustré de plans topographiques qui indiqueraient l'évolution du Caire depuis sa fondation jusqu'à nos jours. L'ouvrage, qui comporterait environ 20 volumes, serait le premier d'une série renfermant tous les ouvrages arabes relatifs à l'histoire et à la géographie de l'Égypte musulmane, dont la plus grande partie reste inédite. » Dans la partie finale de son projet, il évoque un travail en cours, un corpus des, je cite, « menus objets » portant des inscriptions arabes et permettant de faire l'étude de l'épigraphie arabe d'Égypte. Ce travail, fait sur place sur des documents de provenance sûre, apporterait une contribution des plus importantes à la paléographie arabe, sur laquelle nos connaissances sont encore fort restreintes. Comme on le voit, c'était un très vaste programme. Une fois en Égypte, il se met au travail et doit même assurer un temps les fonctions de comptable de l'IFAO, poste qui ne sera créé que lorsque lui-même aura réussi à se dégager d'une charge qui, visiblement, lui a fort pesé. Casanova tombe gravement malade vers la fin de l'année 1902 et, à partir de décembre, obtient des congés de maladie pour retourner en France et s'y soigner jusqu'à l'été 1903. Est-ce que c'était la conséquence d'une complexion un petit peu fragile ou, et de fait, dans sa correspondance, il se plaint à quelques reprises, deux ou trois, auprès de ses correspondants, de maladies qui l'immobilisent? Ou est-ce que c'était la conséquence de la charge de travail? Ma foi, nous n'en savons rien. Une fois rétabli, en tous les cas, il revient au Caire pour reprendre ses activités. On notera que, comparativement, cette décennie égyptienne voit un léger ralentissement dans le rythme de ses publications, probablement comme conséquence de sa charge de travail à l'IFAO. Le seul livre qu'il publie à ce moment-là se rattache directement au programme qu'il avait exposé. Il s'agit de sa traduction du livre des admonitions de Makrizi, qui complète un premier volume dû à Urbain Bourian et paraît dans la collection de l'IFAO en 1906. En novembre 1908, la chaire de langue et littérature arabe du Collège de France avait été déclarée vacante à la suite de la disparition de Charles Barbier-Ménard en mars 1908. En mai, de passage à Paris, Casanova avait rencontré Albert Bayet au ministère pour l'interroger sur son avenir puisque son poste à l'IFAO venait à échéance au 1er janvier 1909. Son interlocuteur est un petit peu évasif et finalement lui conseille de commencer à prendre position pour un poste de professeur et notamment au Collège de France. Avec l'accord de Bablon, il réserve ses premières visites au sémitisant Charles Clermont-Ganneau et à l'hébraïsant Philippe Berger, disciple et successeur de Renan. À la fin de l'année, 6 candidatures avaient été reçues, celles de René Basset, d'Edgar Blochet, d'Anis Sabra, de Clément Huard, d'un certain Rau, professeur d'anglais à Constantine, et de Paul Casanova. Ce dernier avait reçu du directeur de l'IFAO l'autorisation de se rendre à Paris pour défendre sa candidature. La correspondance de Casanova permet de suivre de manière assez directe son parcours de candidat avec ses hauts et ses bas, ses renseignements douteux, ses spéculations qui sont complètement démenties par la façon dont les choses se sont passées. Gaston Maspero le soutient, bien sûr, mais il est au Caire et donc son appui n'est que très indirect. Lors de l'assemblée des professeurs du 17 janvier 1909, l'élection se joue sur 4 noms, en fait, ceux de Basset, de Blochet, de Casanova et de Huard. En faveur du premier, ce sont Clermont-Ganneau, et ça fait sourire, puisque Casanova était persuadé que Clermont-Ganneau, si vous me permettez l'expression, roulait pour lui, et l'indianiste Sylvain Lévy, et Berger, autre support qu'il considérait comme très sûr, qui s'exprime donc en faveur de Basset. Berger appuie par ailleurs Blochet, selon l'usage de l'époque, pour la candidature dite de seconde ligne. Huard est de son côté défendu par le slavisant Louis Léger. Quant à Casanova, il est appuyé en premier lieu par l'assyriologue Charles Fosset, relayé par Ernest Bablon, qui parle très favorablement de son ancien collaborateur. Les 38 professeurs présents auront besoin de 5 tours de scrutin pour élire le successeur de Barbier-Ménard. Pendant les 4 premiers, Basset arrive en tête, frôlant la majorité qui est à 20 voix. Il en obtient d'abord 18, puis 19. De son côté, Casanova commence par recueillir 13 suffrages, puis Huard et Blochet ayant été écartés parce qu'ils avaient recueilli un petit nombre de voix, il en obtient 18. Au 5e tour, un renversement s'opère et Casanova réunit autour de son nom 20 voix, la majorité, contre 18 pour Basset. Du 2e au 4e tour, il y a eu un vote blanc. S'il a été déposé par le même professeur, celui-ci s'est finalement décidé en faveur de Casanova, dont la victoire a été in fine assurée par une défection parmi les électeurs de Basset. Avec Casanova, dans la perspective de l'époque, c'est l'archéologie et les sciences auxiliaires de l'histoire qui l'ont emporté sur une approche dans laquelle les sciences de l'homme jouent un rôle peut-être plus important. Entre deux hommes que le séjour en Algérie a orienté vers les études arabes, c'est finalement celui qui a trouvé son domaine de prédilection au Caire qui s'est imposé. La lutte a été rude et l'étroitesse de la victoire du nouveau professeur de langue et littérature arabe explique que les amis et disciples de Basset aient parfois montré de la rancune contre Casanova. Ce dernier semble avoir bénéficié de la solidarité normalienne au moment de l'élection, mais aussi d'appui politique. Écrivant d'Arcachon à Maspero, au lendemain de sa victoire, Casanova écrit, je le cite, « Les partisans de M. Basset ont mis un tel acharnement que j'ai dû mettre en œuvre toutes les influences politiques dont je pouvais disposer. J'ai fini par mettre en mouvement des députés, des sénateurs, des journalistes et des ministres, Viviani, Clémenceau, etc. » La suite montre que Casanova n'était pas seulement numismate et épigraphiste, ou archéologue. Certes, il continuera à accorder à l'Égypte médiévale l'essentiel de ses travaux. Mais il élargit considérablement sa vision de la civilisation musulmane. Il convient d'ailleurs de noter que ses publications sur des objets, qui lui valaient peut-être cette réputation, appartiennent à l'époque de ses débuts, entre 1891 et 1896. Peu de temps après son élection au Collège de France, en 1911, il publie le livre qui explique que ce colloque en sa mémoire soit organisé dans le cadre de la chaire d'histoire du Coran. Son Mohammed et la fin du monde met en avant la place occupée par l'annonce de l'Apocalypse dans les sourates anciennes et fait l'hypothèse que Mohammed, convaincu de l'imminence de la fin des temps, ne se serait pas soucié de donner une organisation politique à la communauté qui suivait sa prédication. L'intérêt de l'auteur, Casanova, pour le Coran, ne se limita pas à ce livre. Entre 1916 et 1924, les sourates anciennes du Coran font l'objet de son enseignement au Collège de France. Une note publiée en 1924 au Journal Asiatique, auquel il a d'ailleurs contribué à plusieurs reprises, se rattache à cette même veine. Mais son enseignement touche des sujets très divers, par exemple Ibn Khaldoun, et rappelons qu'il a publié la traduction préparée par William de Slane en 1925, ou encore le chiisme. Mais son arrivée tardive à un poste d'enseignant fait qu'il n'aura pas finalement de disciples à proprement parler. Après la guerre, Casanova peut reprendre son existence partagée entre Paris et le Caire. En 1919, il fait paraître son essai de reconstitution topographique de la ville d'Al-Fustat au Misr, qui renoue avec ses travaux de géographie historique. Depuis septembre 1909, la perspective d'une élection à l'Académie est évoquée dans sa correspondance. En 1923, il fait des visites, notamment à Gustave Schlumberger, qui lui écrit plus tard, au lendemain d'un échec lors d'un scrutin qui s'est tenu à la fin de 1925. Casanova le remercie avec une réelle émotion dans un billet daté du 24 décembre 1925. Il est alors au Caire, où l'université égyptienne l'invitait à donner des conférences. Malheureusement, il contracte une pneumonie qui l'emporte le 23 mars 1926. Il laisse derrière lui une œuvre complexe et variée qui trahit une curiosité intellectuelle tout à fait exceptionnelle. Le colloque n'a bien entendu pas pour but de procéder aujourd'hui à une évaluation de l'œuvre de Casanova, mais plutôt de souligner la largeur de ses vues et l'originalité de son approche. Il voudrait également faire sortir de l'ombre un personnage somme toute un peu mystérieux, puisque, comme vous avez pu le constater dans ce que je viens de dire, les documents relatifs à son existence sont finalement peu nombreux, et ce que j'ai pu dire de sa vie, de sa personnalité, est assez limité. Je souhaite, pour cette raison, remercier très vivement les participants qui ont accepté de venir nous aider à saisir la diversité de l'œuvre scientifique de Casanova et dont nous allons entendre les interventions avec le plus grand intérêt. Je vous remercie.
Collège de France, le savoir en illimité. Retrouvez tous nos contenus audio et vidéo sur notre site collège-de-france.fr, les plateformes de podcast et nos chaînes YouTube.